décès. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corban. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue à la petite cuillère pour l'émission contre toutes les prisons du 20 mai. Ce soir, nous allons écouter l'appel de la mère Didier qui est mort au Mitard en septembre dernier à Corba et qui lance un appel du coup pour se retrouver le 30 mai contre les violences pénitentiaires. On va écouter juste après son invitation à se retrouver. On parlera ensuite d'une détenue trans qui a difficilement obtenu le droit à se faire transférer dans le quartier femmes. On présentera ensuite un livre qui s'appelle « Je ne pensais pas prendre du ferme ». Et enfin, on terminera par un épisode de Parloir sur Marvin qui a été en EPM. Et donc, avant d'écouter la suite de l'émission, je vais vous rappeler comment nous faire passer des messages, des informations, si vous voulez passer des dédicaces. Pour ça, il faut nous envoyer soit un message, nous laisser un message sur le répondeur du téléphone du 07 81 35 93 71. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à lapetitecuillere@riseup.net ou encore nous écrire à Atelier d'écriture 24 rue Saint-Jean-Blandan 69001 Lyon. Et on commence du coup par le son pour la manifestation du 30 mai.
Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes début mai 2021, on est avec Najet, la maman de Idir, il est mort au Mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba le 9 septembre 2020 et c'était une mort très suspecte. Officiellement, selon l'administration pénitentiaire, c'était un suicide, mais ses proches n'y ont jamais cru et ont tout de suite monté une association, Idir Espoir et Solidarité, et entamer un combat pour obtenir vérité et justice et plus largement dénoncer ce qui se passe en prison et dans les mitards. Donc bonjour Najet.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du collectif Idir Espoir et Solidarité qui inclut plusieurs familles victimes de l'injustice pénitentiaire et de nous avoir invités.
Vous avez déjà organisé plusieurs mobilisations, démarches, et là, le 30 mai 2021, vous allez organiser un événement.
Effectivement, on a organisé un rassemblement qui sera une journée de lutte annuelle à chaque dernier dimanche du mois de mai à l'échelle nationale.
Ok, alors on va parler un peu plus tard, on reviendra en détail sur cet événement du 30 mai. Et pour commencer, je te propose de présenter un peu plus globalement votre combat et ce qui vous anime.
Nous menons ce combat contre toutes les violences infligées aux détenus et qui restent impunies, contre tout traitement inhumain que subissent les prisonniers. Et contre toute humiliation dans toutes les prisons de la France. Et aussi contre tous les éloignements et les transferts des prisonniers, sans même aviser leurs proches et sans se préoccuper de la situation financière et la distance de leur famille. et on lutte pour que ces monstres qui représentent l'État soient punis de leurs actes de barbarie. Eux qui se permettent de décider de la vie ou la mort d'un détenu. Et la plupart, c'est des Noirs et les Arabes. Et aussi lutter pour radier les couloirs de la mort, dit quartier disciplinaire ou mitard. Ils doivent être fermés définitivement. Parce que malheureusement, c'est là où il y a trop de morts et tortures, plus que suspectes et inexpliquées. Ces fonctionnaires de l'État profitent de leur plein pouvoir et se croient tout permis. Ils exercent leur stratégie de torture psychologique et physique jusqu'à entraîner la mort et par la suite la maquiller en suicide. Parce que ils savent très bien qu'ils sont couverts par leurs collègues et leur hiérarchie et par la justice, bien sûr, en détruisant les familles entières. Et ça dure depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça continue encore et encore. Et cette injustice qui ferme les yeux sans que ces monstres soient jugés et condamnés, ils continuent toujours à exercer ou pour certains sont mutés et montés en grade. Et pourtant, on est dans un pays de droits de l'homme, de liberté, de l'égalité et fraternité. Alors on se demande, ils sont où tous ces droits? Elle est où la vraie justice? Les détenus sont des êtres humains avant tout. Ils sont pas des animaux. Ils sont pas juste des simples numéros d'écrou. Ils ont des familles. La plupart, c'est des mères et des pères de famille. Ils sont des citoyens français. Pourquoi leurs droits sont bafoués? Qui les protège de ces monstres? Nous, les familles, on exige que la justice soit rendue et que la loi s'applique pour tous. Que ces monstres soient jugés et condamnés de leurs actes monstrueux. Que les vidéos de surveillance soient consultées et bien conservées après un drame et que les surveillants soient équipés d'appareils vidéo. Que la justice prend en considération la parole des détenus et pas juste les surveillants. Que les vraies réponses soient transmises aux familles. Pas des scénarios montés en toutes pièces pour nous faire croire leurs mensonges. Nous demandons que les médecins légistes soient honnêtes dans leurs rapports et qu'ils arrêtent de participer à des mascarades et arrêtent de nous faire croire que nos proches sont suicidaires. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous connaissons très très bien nos proches, ils sont rien d'un suicidaire. Ils ne seraient jamais, jamais passés à l'acte. Les prisonniers ont le droit de purger leur peine dans la dignité et le respect. On fait appel à toutes les familles des détenus pour se mobiliser le 30 mai parce que personne n'est à l'abri. Les détenus sont en danger. Il faut pas dire je suis pas concerné parce que nous aussi on n'était pas concernés jusqu'à être touchés par ce drame terrible. Et je fais appel à tous les proches des détenus. Rassemblons-nous. Pour dire stop à l'impunité faite par les surveillants. Stop aux crimes crapuleux maquillés en suicide. Laissez-les sortir vivants. Et pas comme mon fils Idir, Zemani, Benoît, Bilal, Farid, Khalid, Eidi, Jimouni, Toufik, Jamel, Mehdi et plein d'autres. Paix à leur âme. Tous sortis les pieds devant. Et là, ça devient très, très grave. Et pour lutter contre la prescription de toutes les affaires similaires, quand les familles n'ont toujours pas obtenu de réponse. Et pour dire stop au massacre qui détruit des familles tout entières, qui vit dans leur douleur, leur souffrance, qui attend toujours la vraie justice et la vérité depuis des années pour pouvoir enfin faire leur deuil et vivre en paix. Tant qu'il n'aura pas de justice, il n'aura pas de paix. Notre association s'appelle IDIR Espoir et Solidarité. Et on a mis en place une pétition pour radier les mitards dits quartier disciplinaire. Et pour nous, c'est les couloirs de la mort. Et on vous invite à aller la signer, s'il vous plaît, pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'on ne sait pas qui sera le prochain. Notre association, elle est sur tous les réseaux sociaux. Il faut juste taper « Nous sommes IDIR Espoir et Solidarité ».
Ok, donc vous êtes à l'initiative d'un rassemblement qui aura lieu le 30 mai à Lyon. Ça se passe où ?
Le rassemblement du 30 mai à Lyon aura lieu place Bellecour à 14h. Vous trouverez toutes les informations sur notre page Facebook. Et sans oublier, nous remercions aussi toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et vont organiser un rassemblement dans leur ville le même jour. À Nantes, Bordeaux, Perpignan, Béziers, et peut-être Paris et Saint-Étienne. Nous faisons partie du réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe des familles de victimes, des mutilés, des collectifs anti-répression qui luttent contre les violences d'État, entre guillemets violences policières et violences pénitentiaires. Nous les remercions aussi pour leur soutien précieux. Et vous trouverez sur leur page les informations sur les rassemblements qui vont se passer ailleurs en France, en dehors de Lyon. Merci.
Ok, bah on se retrouve dans la rue, dans plusieurs endroits de France et à Lyon, le dimanche 30 mai, contre les morts suspectes en prison, contre les mitards et contre les violences pénitentiaires.
Oui, c'est ça. Et je fais un appel, s'il vous plaît. Venez nous soutenir. Il ne faut pas dire je ne suis pas concernée. Parce que nous aussi, notre famille, elle n'était pas concernée. On n'était pas dans ce milieu. Et là, malheureusement, on est touchés par ça. Venez nombreux. Et comme ça, on soutient les prisonniers. Parce que vraiment, vraiment, ils sont en danger. Les prisonniers, ils sont en danger, là. Et voilà, quoi. Soyez nombreux.
Mais c'est fini.
Merci à Najette de nous avoir transmis cet appel. Alors, je répète, mais il vaut mieux le dire plusieurs fois que pas du tout. Donc, c'est rendez-vous dimanche 30 mai à 14h, place Bellecour, pour le rassemblement avec des prises de parole, des discussions, des infos. Il y aura une discussion du coup avec le collectif Espoir et Solidarité. Et a priori, il y aura sûrement l'Envolée qui sera présente. Il y aura des précisions sur le site de l'Envolée. Si jamais vous écoutez La Petite Cuillère, mais que vous n'êtes pas sur Lyon, il y aura un rassemblement à Nantes à 15h à la préfecture. À Perpignan aussi, il y aura une causerie populaire dans un quartier sur le thème « Mourir en prison, à petit feu ou de mort violente ». Et c'est proposé par le comité Vérité et Justice 66. Il y a d'autres villes, donc je n'ai pas les détails sur où et comment, mais en tout cas, il y aura à Bordeaux, à Béziers, à Paris, et sûrement encore d'autres villes.
Le bruit qui court.
Et avant d'entamer avec le bruit qui court, j'ai oublié de donner une petite info. Vous pouvez aussi trouver des infos sur les mitards sur un blog qui s'appelle Fermer les mitards. .overblog.com. Et il y a une série vidéo qui s'appelle Fermer les mitards et ça explique, c'est des petites bandes dessinées qui expliquent ce que c'est réellement les mitards et la violence que ça procure pour les personnes qui sont enfermées. Voilà, donc pour la suite de l'émission, je vais du coup vous parler d'une détenue trans qui a obtenu d'être transférée vers un quartier femme et qui a difficilement obtenu ce droit là. Elle était du coup harcelée dans le secteur masculin de la maison d'arrêt de Cès et elle a obtenu en justice du coup de se faire transférer. Alors c'est arrivé le 9 avril, c'est une décision du tribunal judiciaire de Toulouse qui, confirmant son changement de genre à l'état civil, a ouvert la voie au transfert de Jennifer, son prénom a été modifié, était notamment contrainte de porter des vêtements d'homme par le personnel pénitentiaire, selon ses comités de soutien. Elle était détenue depuis juin 2020. Elle subissait les propos et actes transphobes de la part de nombreux surveillants, selon Griselidis, une asso de santé communautaire qui défend les travailleurs et travailleuses du sexe à Toulouse. Et la décision judiciaire pose un problème au niveau des fouilles, car Jennifer, en pleine transition, enfin du coup, oui, a toujours des attributs d'homme, selon le responsable du coup d'un syndicat pénitentiaire. Et c'était là où eux, ils trouvaient que, on demande à des surveillantes de fouiller une détenue qui a des attributs d'homme. Et ce qui, selon le responsable de syndicat, il affirme que la loi dit que cela doit se faire entre personnes de même sexe. Et le mardi 20 avril, ce syndicat a envoyé une lettre au procureur de la République de Toulouse pour réclamer une issue légale, proposant qu'elle soit transférée au quartier trans de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en région parisienne. Et c'est une situation que dénoncent des associations, parce que les prisonnières de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis demandent à ce que les femmes trans soient enfermées dans un quartier correspondant à leur genre. L'AP a refusé de s'exprimer sur ce dossier, mais avant d'intégrer le quartier des femmes, la détenue a été placée à l'isolement. Ce ne sera pas forcément plus simple pour elle dans le quartier des femmes, s'inquiète pourtant Laura Garnier, secrétaire de l'association LGBT Arc-en-Ciel Toulouse. La reconnaissance en milieu carcéral de notre identité de genre est longue et fastidieuse, souligne-t-elle. Déjà qu'il y a beaucoup de violence en prison, imaginez ce que peut endurer une femme trans. Les conditions de détention des personnes trans sont régulièrement dénoncées par des associations LGBTI+, auprès de la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et la diversité. En octobre 2020, elle prévoyait de mieux protéger les personnes LGBT+, incarcérées, mais on ne sait pas vraiment. Bon, on n'est pas vraiment sûr que malheureusement ça apporte ses fruits. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à la présentation du livre Je ne pensais pas prendre du ferme. Et nous avons un invité spécial qui nous présente ce livre.
C'est ça, voilà, donc du coup je voulais vous présenter le bouquin Je ne pensais pas prendre du ferme des gilets jaunes face à la violence judiciaire qui a été publié aux éditions du Bout de la Ville en avril là. Donc c'est 11 récits recueillis par Pierre Guérinet et Pierre Bonneau. Donc ce sont Pierre Guérinet, il a bossé sur les tôles notamment, enfin il a réalisé le documentaire Faites sortir l'accusé, brève histoire d'une longue peine sur donc l'histoire de Philippe Lallouel qui est détenu à la centrale de Lannemezan, et Pierre Bonneau, lui, il bosse sur les mouvements sociaux et la criminalisation des luttes. Donc le bouquin voilà, est vraiment bien fait. La disposition du bouquin, voilà, pour tracer un peu dans les grandes lignes, il y a 11 témoignages avec des personnes qui sont encore à l'intérieur ou qui sont sorties. Il y a des régimes d'enfermement très différents. Donc il y a des personnes qui parlaient depuis une détention provisoire, d'autres qui étaient incarcérées, qui avaient été donc condamnées, avec donc des profils qui sont très très variés. Donc c'est des personnes qui avaient d'abord d'avoir eu affaire à la justice avant, d'autres personnes qui étaient tout juste des nouveaux ou des nouvelles militantes. donc qui vraiment donc découvre vraiment de très très durement la répression judiciaire avec le mouvement des Gilets jaunes. Et en plus de ça, donc il y a des témoignages aussi de proches, enfin de personnes qui sont mobilisées autour du coup des prisonniers et de prisonnières, dont Marie-France Caruesco, qui est allée à chaque procès des Gilets jaunes à Montpellier, qui a participé à fonder un collectif d'aide aux blessés, et Candy, une Gilet jaune de Saumur, qui a créé à l'époque une page Facebook pour s'entretenir avec les détenus et qui encourageait les personnes du coup à leur écrire, à faire des correspondances avec les détenus pour briser un petit peu en tout cas l'enfermement. Et donc en plus de ça, le texte, il y a aussi un texte qui est très intéressant à l'intérieur, qui demande l'amnistie générale et qui pose la question de l'amnistie pas seulement pour les détenus politiques mais aussi pour les prisonniers et prisonnières de droit commun, qui a été écrit lors d'une assemblée générale du mouvement des Gilets jaunes en 2019. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir comment ce mouvement qui avait rien à voir avec la détention en fait à la base s'est emparé de ces questions, la question de l'enfermement, la question des violences carcérales suite à sa répression. Voilà. Et enfin, le bouquin, il se conclut par des notes prises, des notes qui ont été prises lors des comparutions immédiates au tribunal de grande instance de Paris. Tous les lundis, en fait, les mouvements des Gilets jaunes, c'était le samedi, hein, pour mémoire. Et tous les lundis, en fait, il y avait au moins une à deux chambres du tribunal de grande instance de Paris qui étaient réservées aux comparutions immédiates des Gilets jaunes. Donc, c'est dire à quel point ça a été violent et à quel point, en fait, l'État a distribué des peines à tour de bras pour des délits souvent mineurs. Le bouquin est vraiment intéressant là-dedans. C'est un super texte. En plus, l'argent du bouquin est reversé au collectif Plein le dos. C'est vraiment... vraiment une très belle lecture à faire pour comprendre un peu les derniers les dernières modifications répressives des mouvements sociaux, quoi.
Eh ben merci. Je crois que tu voulais en lire un petit bout, non,
c'est ouais ça, c'est ça. Il y a l'avant-propos du bouquin qui est vraiment pas mal. Donc ça s'ouvre sur une citation d'Afed Ben Othman: il n'y a pas de justice, il n'y a que des lois. Donc le texte est le suivant. Saisi par l'objectif complaisant des caméras des chaînes d'infos en continu, la répression policière du mouvement des Gilets jaunes n'a échappé à personne. Tirs de flashball dans les yeux, grenades explosives, nuages de gaz lacrymogènes. Cette violence n'est pas une dérive du maintien de l'ordre ni le fait de quelques pommes pourries. Pendant 2 ans, tous les samedis, les hommes en armes ont mutilé des dizaines de manifestants dans le but de terroriser les autres, d'éradiquer ce surgissement populaire et de rassurer une clientèle électorale recluse dans quelques confortables appartements. Cette stratégie marque une période où l'État assume toujours plus clairement de régler la question sociale avec une extrême brutalité dans le sang. Ce que les caméras n'ont pas montré en revanche, c'est que la répression s'est poursuivie avec d'autant de systématisme et de violence dans les tribunaux. Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, la garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet, exige une grande fermeté des parquets, auxquels elle adresse une circulaire qui récapitule l'arsenal judiciaire à mettre en œuvre pour écraser la contestation. Le 12 janvier 2019, Rémy Heitz, le procureur de Paris, donne des consignes aux magistrats pour prolonger les gardes à vue des Gilets jaunes arrêtés préventivement au début des rassemblements parisiens. Il faut vider les rues comme on évacue les ronds-points ou les péages occupés partout en France. Résultat, entre le 17 novembre 2018 et le 24 mars 2019, l'État revendique fièrement 10 000 gardes à vue. Les amendes, les interdictions de manifester et de territoire pleuvent. Les peines de prison aussi. En 2 ans, au moins 3 000 gilets jaunes sont condamnés. Plus d'un tiers écope d'une peine de prison ferme et plus de 500 partent en prison pour des peines allant de 1 mois à plusieurs années. Des dizaines d'autres peines ont été prononcées sans être pour autant comptabilisées par les parquets, ni même par les quelques personnes qui ont tenté ce travail. La répression judiciaire du mouvement des Gilets jaunes rivalise donc avec le triste record jusqu'ici détenu par la révolte des quartiers populaires de l'hiver 2005. En seulement 3 semaines, près de 800 personnes avaient été alors condamnées à des peines de prison ferme. Le recours massif aux tribunaux et à la prison qui visent à écraser les Gilets jaunes n'intéresse pas grand monde, à l'exception de quelques sites d'information mutualisés sur Internet et quelques médias confidentiels. Dans leur écrasante majorité, les milliers de procès se tiennent en comparution immédiate. Dans ces véritables usines à condamnation se poursuit l'entreprise de déshumanisation des manifestanteux, entamée dans la rue à coups de matraques et sur les plateaux télé, à coups de commentaires qui transpirent la haine et le mépris de classe. Une entreprise qui s'achève dans les prisons, là où, encore plus loin du regard public, hommes et femmes sont réduits à d'infâmes numéros d'écrans. L'expérience du tribunal et de l'enfermement est un véritable électrochoc pour les gilets jaunes dont le casier judiciaire était resté vierge jusque-là. La brutalité de ces punitions en a conduit beaucoup à construire un point de vue sur la prison, mais aussi sur les tribunaux, où ce n'est pas la vérité qui se manifeste, mais bien un rapport de force. Ces condamnations marquent aussi en profondeur les familles et les proches et font apparaître la justice pour ce qu'elle est. Rien de plus qu'une administration qui a emprunté son nom à une vertu pour asseoir une domination de classe. Marie-France, Romain, Jean, Abdelaziz, Thomas, Michael, Bruno, Serge, Mike, Candy racontent leur combat. Sous forme d'entretien ou de récit à la première personne, ces paroles ont été collectées et mises en forme entre juin 2019 et octobre 2020, un petit peu partout en France, au gré des rencontres, des liens, des amitiés. Une jolie bande rejointe in extremis par Noé, dont la lettre nous est parvenue alors que l'ouvrage partait en maquette. Depuis la prison où il purge sa peine, il nous rappelle que les gilets jaunes sont encore enfermés pour les nombreuses affaires qui ont donné lieu à des instructions. Voici 11 parcours singuliers, enrichis par le combat collectif et une exceptionnelle solidarité dans l'adversité. 11 vies dont les trajectoires individuelles sont bouleversées par le mouvement et ce qui leur réprime. Ce livre est autant un hommage aux gens qui ont été emprisonnés qu'à celles et ceux qui ont pris la peine des autres à bras-le-corps, pour que le mouvement s'en souvienne et que l'histoire ne soit pas écrite uniquement contre les vaincus, pour que le grand confinement n'étouffe pas l'incroyable désir d'émancipation qui s'est exprimé dans les rues et sur les ronds-points il y a de cela si peu de temps. Voilà, donc ça c'était, voilà, c'est l'introduction, c'est l'avant-propos du bouquin et je trouve qu'il résume parfaitement voilà, ce que c'est donc une chronique d'une répression judiciaire d'un mouvement social et voilà, comment un mouvement social s'empare de ces questions-là pendant plusieurs années.
Eh bien, merci, on va s'écouter une petite musique avant la suite de l'émission.
I am Daily Bay, cause I keep it J. Pull that bitch in the soil, cocaine in the foil. Take your bitch, I'm a sugar in Yale. Another mill, another quilla, hey. I'ma take you. Don't mess around, I'ma replace you. With money and power and bitches, I don't give a fuck, you on my head list. Take your bitch, take your wife, take your business. Yeah. Like, who this little nigga push away, yeah? I got meals to make you priceless, you can't pay, yeah. Like, ooh, collecting all my paychecks. Like, ooh, I can see you through my Ray-Bans. Like, ooh, oh, you think I'm thinking about you. Daddy B could kill you once, but I'ma kill you twice, yeah. Roll my weed, keep my bitch, is a main plan. If you gon' fuck with me, you winning. Yeah, got to grow. Maybe two, maybe more. I don't really know, but I gotta go. Operation. Take your bitch on vacation. Don't need a hoe, I can't save you. They don't lie what they tasting. No samples, no fiction. I can see through the faces. Got the handy to my gut. Bubble rain in my blood. Got the future more like I'm the plug. You won't see me in the clubs. Wavy, baby. I be callous, cautious, and crazy. Give a fuck, you can never replace me. Even God can't save me. Neither Rock can save me. Neither Jeffrey or Richard or Nathan. Guys, I've been moving crazy, yeah. Smoking daisies in my doobies, yeah. Is it money? Or is it the bitches? Either way, I get both. You can't hit me up, you fuck with snitches. Can you take it? You finna fake it till you make it. Cause I be on so much crud, finna make it. Like, who this little nigga push your way up? I got meals to make you priceless, you can't pay up. Like, ooh, collecting all my paychecks. Like, ooh, I can see you through my Ray-Bans. Like, ooh. Twice, yeah. Roll my weed, keep my bitch, is a main plan. If you gon' fuck with me, you winning. We finesse the lane. Yeah, got to grow. Maybe two, maybe more. I don't really know, but I gotta go.
generation of liberation. Take your bitch on vacation. Don't need a hoe, I can save you. They don't lie what it tasted. No samples, no fiction. No more fiction. No more picking. Moving brazy. Yeah, yeah, moving brazy. Yeah, yeah, fucking crazy. Yeah, little bitch.
C'était I Am Lilibi. Ouh. Et maintenant, tu veux nous présenter du coup l'épisode de Parloir qu'on
c'est
va
ça.
Juste après.
Yes. Et bah, l'épisode de Parloir qui est diffusé ce soir, c'est un épisode qui est constitué sur le témoignage de Marvin, qui était un détenu de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu. J'ai récupéré son témoignage qu'il avait fait à l'Observatoire international des prisons il y a une dizaine d'années de ça. C'était assez intéressant parce que c'était un des premier vrai témoignage qu'on avait en fait de ces trucs-là, parce que du coup ça a été, enfin du coup en recherchant le truc, ça a été voté en 2002, ça a été mis en place entre 2007 et 2008 si je dis pas de bêtises, et Meyzieu ça a été un des premiers, et pendant longtemps en fait on savait pas trop à quoi ça ressemblait en fait, si c'était voilà, c'était des quartiers pour mineurs qui étaient déplacés des tôles, si ça ressemblait plutôt au centre d'éducation fermé, enfin c'était pas très clair. Il s'est avéré très très vite que c'était juste des espaces de tôles pour mineurs, et que concrètement en fait c'était un espace où c'était un espace de plus où on te menaçait d'aller quand t'étais déjà en centre d'éducation fermé, ou voire quand tu te faisais directement toper par les keufs, et qu'à l'issue de ton passage là-bas, en fait tu pouvais être envoyé de prendre du ferme en détention avec dans les quartiers majeurs quoi. Voilà, donc je trouvais que le témoignage était assez intéressant parce que du coup il y en a très peu en fait. J'ai un peu parcouru tous les vieux numéros de l'Envolée et même plein d'autres fanzines, et en fait il y avait pas beaucoup de témoignages. Il y en avait un en 2007 que l'Envolée avait publié. Ils avaient publié aussi une interview d'un animateur qui avait refusé d'être là-bas, parce que du coup la particularité des EPM, pour ceux et celles qui savent pas, c'est qu'en fait il y a moitié de surveillants, moitié d'animateurs. Sachant que du coup ça brouille un peu les rôles, parce que forcément généralement les animateurs sont pas tout le temps là, et que du coup les surveillants sont beaucoup plus présents, du coup ça rend les choses que plus confus. Mais bon voilà, les EPM ça fonctionne comme n'importe quel tôle, il y a du mitard, il y a des sanctions, c'est sauf qu'il y a moins de droits en fait, aussi il y a moins de droits, il y a pas droit de fumer difficilement, disons que c'est pas des... C'est une prison où il n'y a pas eu toutes les luttes qu'il y a eu en prison pour avoir certains droits en fait. Donc du coup c'est hyper sauvage comme espace. Ça, voilà. Et il faut savoir, du coup, je crois que je l'ai dit au début de l'épisode, mais voilà, ça concerne, je crois qu'il y a plus de 750 mineurs incarcérés en France, ce qui est quand même pas négligeable. C'est 1% de la détention totale, la population détenue au total, donc c'est quand même beaucoup. Et il faut savoir que 70% de ces personnes-là, elles sont là provisoirement en fait. Elles n'ont pas encore jugé. Donc en fait c'est pour montrer à quel point en fait quand des mineurs posent problème, l'État dit juste allez en tôle quoi. Il n'y a aucune solution qui est proposée avant. Voilà, donc du coup les EPM ça s'est rajouté sous Sarkozy, en plus du coup des centres d'éducation fermés, etc. et toutes les autres structures d'enfermement des jeunes. Voilà.
Merci pour la présentation, on va écouter ça tout de suite.
Ça marche.
Une enceinte imposante avec des murs de 6 mètres de haut.
On a recours à la détention de manière exceptionnelle en matière de mineurs.
Des barbelés courent le long des grilles.
La détention est parfois très utile pour enclencher un travail éducatif.
En 2008, le PM de Meyzieu a enregistré le premier suicide de mineurs.
Ce sont des structures tout à fait adaptées pour les mineurs.
Un témoignage de Marvin en 2012 à sa sortie d'incarcération au centre pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu dans l'agglomération lyonnaise.
Les établissements pour mineurs, il n'y en a que 6 en France.
Nous avons commencé avec la loi de lutte contre la récidive
et seulement depuis 10 ans.
Des infractions 305 les moins graves mais qui pourrissent la vie de nos concitoyens.
La mineure, rodéo, d'une manière incompréhensible.
L'atmosphère semble presque familiale.
A refusé ce que lui disait la surveillance.
Cela reste une prison.
Aujourd'hui, presque du jour au lendemain, on pourra sanctionner.
Comme lui, ce sont pas moins de 750 mineurs qui sont incarcérés au 1er janvier 2021 en France. Ils représentent 1% de la population carcérale et sont écroués pour 76% d'entre eux en l'attente d'un jugement.
L'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mézieux serait au bord de l'explosion.
Une journée type à l'EPM. On est réveillé vers 7h30. Chaque unité, il y en a 7 en tout, est divisée en deux groupes. Un premier groupe descend pour prendre le petit déjeuner au réfectoire de 8h à 8h30. Le deuxième groupe descend de 8h30 à 9h. Ensuite, on va en cours ou en activité. Sur les coups de 11h30, on regagne l'unité pour la distribution des repas. Un groupe descend manger au réfectoire, l'autre mange en cellule. L'après-midi, ça repart, on a une heure ou deux d'activité, de sport, de cours. Le soir, ceux qui ont mangé au réfectoire le midi mangent en cellule et vice-versa. Le week-end, on est réveillé plus tard, il n'y a pas d'activité le matin. On prend le rythme imposé, on s'y habitue. Par contre, ceux que j'ai connus qui arrivaient de quartiers mineurs étaient dégoûtés, car ils avaient beaucoup moins de liberté à l'EPM. Des fois, moi non plus, je n'avais pas le goût. J'aurais préféré rester seul en cellule. Quand tu n'as pas envie, tu peux refuser d'y aller, mais on te donne un refus. Ce n'est pas une sanction, mais ça fait du contre, le jour où une sanction tombe. Il m'arrivait de refuser un peu les cours, car je m'y ennuyais. On est 4 ou 5 en cours, mais avec des niveaux très différents. Pourtant, il y a une évaluation de niveau à l'entrée, mais leurs tests ne servent à rien en fin de compte, car on est tous mélangés. Du coup, en cours, bah, c'était le bordel. Certains apprennent des choses, mais c'est pas tout le monde. C'est pareil pour les formations. Il y avait des formations maçonnerie, horticulture ou mécanique, mais sans outils. Les formations sont théoriques et inutiles.
Ici, les détenus sont appelés par leur prénom et non par leur numéro d'école.
En fait, il y a un binôme surveillant-éducateur sur chaque unité. Le travail de l'éducateur est plus social normalement. Lui seul peut organiser des activités en groupe, comme un atelier cuisine par exemple. Sans l'éducateur, on n'a pas de repas commun et on mange en cellule tout le temps. On ne peut pas avoir de promenade non plus. Dans mon unité, il y avait deux ou trois éducateurs assez sympas. Mais ils ne montaient pas de projet car d'après ce qu'ils disent, ils n'ont pas assez de budget. Ils étaient donc surtout là pour gérer les repas collectifs. L'autre différence, c'est que les éducateurs ont un peu plus peur de nous que les surveillants. En général, ils sont plus rapidement démunis en cas de problème comme des insultes, par exemple.
Une transgression de la loi mérite une sanction. Sanction évidemment adaptée en fonction de l'âge de l'auteur. Il est aujourd'hui nécessaire d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Les travaux d'intérêt général doivent devenir possibles dès 13 ans.
Égal au futur pour les petits durs. Égal au futur entre quatre murs.
C'était un peu chaud avec la plupart des surveillants. Certains nous parlaient mal, ils mettaient de l'huile sur le feu. Dans mon unité, les surveillants ont beaucoup tourné car ils se faisaient trop insulter. Il y avait trop de bagarres détenus surveillants. C'est vrai qu'on n'y allait pas de main morte avec eux. On était respectueux, mais à partir du moment où un surveillant nous annonçait quelque chose et qu'il ne tenait pas parole, c'était cuit pour lui. On ne les insultait pas gratuitement ou par plaisir. Il y avait toujours une raison. Avec les éducateurs, c'était un peu pareil. Ils sont gentils, mais trop souvent, ils mentent. Par exemple, si un éducateur nous dit qu'on va avoir une activité le week-end et qu'on ne l'a pas, parce qu'il est parti en congé, on ne laisse pas passer. À son retour, il se fait insulter, on refuse de le réintégrer et il part en arrêt maladie. Il travaille pour la justice. Je ne vais pas avoir une relation de confiance avec eux. La nourriture à l'intérieur, c'est la gamelle ou rien. Parce que l'on ne peut pas cantiner de plaques chauffantes ni de conserves comme dans les quartiers majeurs. Les quantités ne sont pas top. Ce ne sont pas de grosses proportions, c'est pas bon, c'est pas cuit. C'est pire que la bouffe de la cantine. Si la gamelle arrive à 11h30, c'est chaud, mais si on nous la monte à 12h15, c'est froid. Et puis il n'y a pas d'eau minérale, on boit l'eau du robinet. Elle a vraiment un goût spécial. Si tu remplis une bouteille d'eau et que tu la bois le lendemain, t'as l'impression que l'eau a périmé en fait. C'est limite imbuvable. Et puis, quand il faisait froid, l'eau était gelée, et quand il faisait super chaud, l'eau était bouillante. J'en ai plein de détails comme ça.
On dirait nous on est des chiens. Prends la laisse, mets-les dans la cage. C'est quoi, mais c'est exactement ça, c'est une métaphore, c'est exactement ça.
Il y a des refus de réintégrer les cellules et des feux en cours de promenade quasiment tous les jours, voire plusieurs par jour. En général, on fait ça quand il coupe la télé, car parfois il y a des injustices. Par exemple, si les télés de notre unité sont coupées à 23h alors qu'on n'a pas particulièrement eu de problèmes disciplinaires dans la journée et qu'on voit que l'unité d'en face a encore la télé, c'est un feu obligé. Et harcèlement sur l'interphone aussi. Sinon, il y a au moins une tentative de suicide par semaine. Les bagarres sont très rares par contre. La plupart du temps, elles font suite à un refus de réintégration et opposent détenus et surveillants.
Est-ce qu'il ne faut pas tirer les conséquences que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier ?
Dans des centres éducatifs, s'ils sont jeunes, très durs.
Qu'il faut maintenant recourir peut-être à de la prison pour des gens plus jeunes.
On se lève à 6h du matin, et on va faire une heure de footing, on se douche, on va faire ci, on s'en occupe, comme à l'armée.
Plus jeunes.
Avec des anciens militaires, etc. Pourquoi pas ? Moi, j'en ai un, je peux en accueillir quelques-uns d'ailleurs.
Plus jeunes.
On peut rajouter les travaux d'intérêt général.
C'est ceux qui se comportent mal. Service militaire obligatoire.
Une tentative de suicide par semaine.
Plus jeunes.
Je suis passé plusieurs fois en commission de discipline, avec du confinement et du mitard à la clé. Une fois, c'était suite à une bagarre avec un autre détenu en cours de promenade. On s'est embrouillé, les autres détenus nous ont séparés, la cavalerie est arrivée et j'ai été réintégré. En fait, quand il y a une bagarre, l'éducateur ou le surveillant présent déclenche son alarme. Plusieurs surveillants viennent en renfort, ils arrivent comme une meute autour de toi. Ils ont voulu me faire remonter moi en cellule. Je n'ai pas trouvé ça normal car c'était l'autre qui avait causé l'incident. Donc je me suis pas laissé faire. J'ai commencé à m'énerver, peut-être aussi à prendre un premier surveillant à partie. Et là, dès que j'ai bougé, ils m'ont fait une clé de bras et m'ont menotté dans le dos. Je me suis pris quelques coups de genou au visage et ensuite ils m'ont fait une balayette. Donc je me suis retrouvé au sol. Après, ils m'ont remonté en cellule. Sur le trajet, je continuais à être un peu agité. Du coup, ils ont resserré les menottes et un peu la clé de bras. Ils m'avaient menotté jusqu'au sang. J'ai dû prendre 5 jours de confinement avec privation de télévision pour cet incident. Et les parents ne sont pas informés. Les 10-15 premiers jours sont passés assez vite. Je faisais pas mal de pompes, je m'endormais vite le soir, donc je n'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Et puis après, tu prends tellement le rythme des journées, elles passent assez vite finalement. Les parloirs cassaient un peu ce rythme. Je m'en servais comme de repère dans le temps. Dès que je suis arrivé à l'EPM, on m'a dit de ne pas trop rêver par rapport aux appels téléphoniques. Et que dans le meilleur des cas, on accepterait ma mère et mon père. C'était lié à mon affaire vraisemblablement. Du coup, je n'ai même pas fait la demande de téléphone. En plus, les appels téléphoniques de l'intérieur coûtent super cher.
La prison ne change rien.
La délinquance des mineurs est un fléau qui démoralise nos compatriotes et nos forces de l'ordre.
Les jeunes ont changé.
Les incidents détenus personnels ne cessent de se multiplier.
Ce type de d'établissement sera maintenu et pérennisé.
Lutte contre le trafic de stupéfiants.
Quand ils sont condamnés, il faut les sortir du quartier et les mettre dans des centres fermés.
Amende forfaitaire pour occupation illégale de halls d'immeubles.
Ils en ont 7 à fin 2008.
Vente de cigarettes à la sauvette.
Interdiction de l'usage de gaz hilarant.
La France est malade de son insécurité.
Cet établissement est absolument adapté pour la délinquance des mineurs.
Plus jeune.
Mais vous laissez aucune chance à la personne. La personne, elle a 16 ans, elle est décédée ici, elle a un casier judiciaire maintenant. Quelle chance vous lui donnez à trouver un travail? Après, vous lui dites, toi, on t'a dit d'être réinsérer dans la société. Mais vous lui donnez quelle chance? Qu'est-ce que vous lui donnez en main?
Et voilà, c'était La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons, chaque premier et troisième jeudi de chaque mois, de 20h à 21h, sur Radio Canu. Pour nous envoyer des messages, nous laisser des dédicaces, nous filer des infos, vous pouvez nous contacter en laissant un message sur le répondeur au 07 81 35 93 71, nous envoyer un mail à lapetitecuillère@riseup.net ou encore nous écrire à Atelier d'écriture 24 rue Sergent Blandan 69001 Lyon. Et puis notez bien dans votre agenda le 30 mai 14h place Bellecour pour aller se rassembler contre toutes les violences pénitentiaires. Bonne soirée.